Vous écoutez
RMC.
Encouragé comme il se doit par son public,
oh, phénoménal,
Marseille emballe le match et ouvre la marque.
Une frappe surpuissante. Non, je rigole quand je dis super ça.
L'OM mène 1-0.
Cucu.
Tapis et sourire.
La bonne humeur, l'enthousiasme, la joie de vivre qui se dégage.
Mais petit à petit, l'OM s'essouffle.
Ah, il est mon cul, hein.
Et Monaco parvient à égaliser par Manuel Amoros.
Ils essayent de bloquer tous les espaces pour pas que puisse s'y gonfler, mais...
En deuxième mi-temps, la situation s'arrange pour l'OM.
Parce qu'au milieu de terrain, t'as pris le brouillon.
Tapi est soulagé.
Parce que les résultats sont ça.
Et complètement rassuré grâce à un troisième but marqué par le même Papin.
Et voilà, moi je pense que cette histoire pour moi elle est close.
En attendant, à Marseille, on ne voit plus que par Tapi.
On va parler de foot. Ça au moins, ça vous intéresse pas non plus. Bon, bah, écoutez.
Je parle de foot avec des gens qui connaissent le foot, pas avec vous. Parlez quoi.
Mais attention, l'OM reste un club difficile à piloter.
Bon déplacement en train supporté.
Moscato, il va te le régler le problème.
Oui. Non mais on ne touche pas. Oh, s'il vous plaît les gars, on ne touche pas Manu, s'il vous plaît.
Voilà, pas mal,
on ne touche pas là.
Ouais, mais le problème,
la meilleure latérale de l'histoire de l'équipe de France, on ne touche pas les gars.
Non mais le problème c'est que celle-là on l'a complètement oublié parce que Manu on ne passe pas tous les jours quand même.
Manu Amoros.
Non mais Manu,
les espaces qu'on peut s'y gonfler.
Ils ont pris le brouillon. Manu, on le salue, nous écoute régulièrement.
On embrasse Manu.
Grand joueur.
Ça me fait pas rire, Manu, je te promets.
Moi aussi, je te fais rire. C'est toi qui...
Alors, on y va sur l'OM. Donc, la Ligue 1 reprend ce week-end avec en point d'orgue ce Monaco-Marseille dimanche soir, 20h45. L'OM semblait à l'abri pour le podium avec les mauvais résultats de Lyon qui gagne plus un match. Mais Monaco revient. Monaco, c'est l'équipe en forme. Ils ne sont plus qu'à 3 points de l'OM. Donc, l'OM est-il encore en danger cette saison? Est-ce qu'une montée en tension est de nouveau possible? Vincent règle le problème. Et avec vous, bien sûr, au 32-16, on va faire le point sur ce match avec François Pinet. Salut François.
Salut Pierrot, salut les amis.
Avec une dynamique clairement positive du côté de l'AS Monaco. Hein.
Oui, qui est en plus devenu un spécialiste des fins de saison canon. Hein. Ça avait déjà été le cas en 2022 avec Philippe Clément, en 2024 avec Eddie Hutter. Là, avec Pocognoli, on a l'impression que c'est la même chose parce que ça se passe très bien. Depuis fin janvier, depuis la 19e journée, c'est tout simplement la meilleure équipe. 23 points sur 27 possibles. Personne ne fait mieux. Même pas le PSG, même pas Lens. Les Monégasques qui sont invaincus depuis cette date. 9 matchs, 7 victoires, 2 matchs nuls. C'est même 6 victoires d'affilée en Ligue 1. Pour Monaco, ils ont battu Lens, ils ont battu le PSG et Lyon dernièrement. Donc on a l'impression que Monaco a trouvé la formule, Pocognoli a trouvé son système. Alors il sera pas là, hein. Il sera suspendu contre l'OM, ça peut être embêtant pour Monaco parce qu'on le voit souvent s'agiter, hein, sur le bord de la touche, le Belge. Mais il y a un vrai point noir côté marseillais, c'est l'absence de Greenwood, hein, l'absence du meilleur buteur qui ne sera pas là, et Abi Bey, lui, qui de son côté cherche toujours la meilleure formule. Il y a encore une sorte d'inconstance, il reste sur une défaite, malgré 3 victoires pour Abi Bey, il y a quand même 2 défaites depuis son arrivée, une élimination douloureuse en Coupe de France, et comme tu l'as dit Pierrot, ils ont seulement 3 points d'avance sur Monaco, 2 points d'avance sur Lyon et sur Lille, qui joueront avant cette rencontre, donc ça peut être véritablement un match tournant dans la saison des Marseillais.
Alors Vincent, est-ce que Marseille est encore en danger cette saison, après tout ce qu'ils ont déjà vécu quand même, hein?
Mais bien sûr qu'ils sont en danger. Si, ils ont la pression comme tous les ans pour être dans les 3 premiers. C'est tout. Là, ils jouaient le titre un peu pendant un petit moment et ça fait longtemps qu'ils ne le jouent plus. Là, ils jouent pour être dans les Européens. Comment tu veux qu'ils n'aient pas la pression? Alors, ça s'est éclairci un peu, il me semble, au niveau des dirigeants.
Ça bon, ça y est,
Macourt, oui, a repris les affaires en main. Mais la pression sportive, je ne parle pas de la pression intérieure du club. J'ai l'impression que là, ça va un peu mieux, même si, Macourt a quand même. Ça fait du bien qu'un président arrive, lui on l'entend jamais, et qu'il dise bon ben voilà, on va faire ci, on va faire là, on va prendre d'autres directions, ça file un coup de fraîcheur. J'ai l'impression que mais sportivement la pression elle est là. Comment tu veux qu'il y ait pas la pression avec un Monaco qui tourne? Le petit Pocognoli quand même, c'est lui qui arrive de Belgique, hein, c'est oui, dans un petit club, ça, il était, oui. Putain, il vient rêve lui quand même,
c'est gilloise.
Déjà, il change de pays quand il vient dans un pays quand même, parce que là, il habite en Belgique. Tu t'es atterri à Monaco, tu te dis, quoi, c'est
pas. Bah,
j'ai jamais vu ça dans ma vie, quoi, parce que tu vis en Belgique, t'imagines, quoi, la misère. Et donc, là.
Mais il est fou, ça.
Non, je déconne. J'embrasse nos amis belges. Il faut que j'aille jouer, d'ailleurs.
Voilà. Il faut que j'aille jouer. Tu vas aller leur prendre un peu les sous, quand même.
Ouais, parce que ça fait des années qu'ils me demandent d'aller jouer, donc je vais y aller, un de ces quatre. Et donc, ce brave Pocognoli, quand même, il s'y est filé au mastic. Ils arrivent lancés comme des frelons. Comment tu veux que Marseille, qui quand même, Greenwood, trapinette, hein, et en plus, tu le sais, c'est quand même, ils sont, c'est un électrocardiogramme, mais d'un comateux, quoi. Ça fait que ça, quoi. Sur le, c'est en haut, en bas, ça marche pas. Donc, pression jusqu'à la fin. Et puis voilà, mais bon, après, c'est aussi le lot de tous ceux qui veulent aller vers le haut. Ils ont tous la pression, mais eux, un peu plus que les autres, quand même.
Alors, l'OM est-il encore en danger cette saison, Eric Dimeco?
Oui, on le voit, il faut pas regarder que les résultats, parce que malgré tout tu gagnes contre Auxerre, tu vas gagner à Toulouse, mais il faut regarder la manière, et puis surtout le fond du jeu, quoi. Et le match contre Lille est terrible, c'est un concurrent direct que tu es pas capable de bouger finalement, et là on se rend compte que ça tient à pas grand chose, puisqu'à partir de ce week-end, selon comment ça tourne à Monaco, tu te retrouves donc à égalité de points avec eux, mais tu as même peut-être Lille qui peut passer devant toi, c'est ça? Ils ont
ils sont dessus, c'est ça? Ouais, ils ont deux points.
Voilà, il y a Lyon et Lille qui sont à deux points, ouais.
Voilà, donc je sais pas les matchs.
Bah, Lille, Lens et Lyon qui affrontent Angers.
Ah, il y a le derby.
Coiffeur, arrête de couper le Giscard, là.
Et donc, mais tu sais, si tu vas à Marseille dans la rue, interviewer les supporters, ce match à Monaco, fait peur, parce qu'il peut faire basculer la fin de saison dans la grande difficulté. Mais il y a personne qui, quand tu rentres le fond du jeu de l'OM ces derniers matchs, malgré quelques victoires, il n'y a personne qui pavoise, hein. Il n'y a pas un supporter qui te dit c'est fait.
Tout le monde a la pression quand même.
Et lundi, tout le monde a la pression, mais la pression, elle est moindre, Vincent, quand tu es chez toi et en pleine forme quand même, tu vois. Ouais. Alors après, l'OM peut faire un très bon résultat à Monaco, ce ne serait pas la première fois ni la dernière, sauf que ton atout principal offensif ne sera pas là. Donc ça aussi, c'est inquiétant, puisque ça a été dit dans la présentation du sujet. Voilà, donc moi je suis pas fier avant de regarder ce match-là.
Hein. Alizé Cornet, la question, donc est-ce que l'OM est encore en danger cette saison ?
Moi j'ai l'impression que l'OM est toujours un peu en danger quand même, tout le temps, à chaque fois que j'entends parler de l'OM, c'est un peu un état permanent, et en même temps, est-ce que c'est pas ça qui met du piment ? C'est quand même l'un des clubs qui a le plus de fervents supporters, on parle souvent d'eux, c'est un club historique, mais au final on est très, le focus est beaucoup pointé sur eux, j'ai l'impression, et c'est vrai qu'on a l'impression qu'ils sont toujours, alors soit, comme le dit Vincent, je voulais rebondir là-dessus, mais par rapport aux problèmes internes qui sont liés au club, là j'ai l'impression qu'ils ont trouvé un petit peu plus de stabilité, et je me demande si sportivement ça va quand même pas les aider à mieux gérer justement cette pression, parce que quand même ça déconne pas mal en fin d'année dernière, en début d'année, et là voilà, le fait que la direction se stabilise un petit peu, bah peut-être que le danger sera un peu moindre, mais encore une fois ce ne sont que des suppositions, et moi j'ai l'impression que Marseille c'est quand même voilà, c'est un peu amour, gloire et beauté, quoi. C'est du drame permanent.
C'est du drama permanent. Mais alors là, la situation elle est particulière parce que tu t'es délesté de toute l'hystérie qui était marque de fabrique de la direction précédente, que ce soit Longoria ou De Zerbi. Et d'un autre côté, t'es tombé dans un truc un peu léthargique qui est très inquiétant, moi je trouve, parce qu'en fin de compte, aujourd'hui des joueurs de l'OM, bon, à part les quelques-uns qui sont très impliqués, je pense qu'on peut Matoy, Bjerg ou Balerdi à part, mais les autres qui sont là de passage, qui ont des contrats des fois de moins de 6 mois ou d'un an, 1 an et demi, moi je pense que ces mecs là, non, mais si ça se passe mal dimanche, la priorité ça sera de trouver un contrat ailleurs.
Ils vont pas mourir sur le terrain,
exactement. Moi je trouve que le principal danger il est là, en fait, hein.
Mais là où tu as raison, Pierrot, c'est que la bascule, alors ça peut être ce week-end, la bascule contre Monaco, puisque si Monaco gagne, ça remet tout en jeu. La fin de saison va générer la future saison, voire même l'austérité. Et là où tu as raison, c'est que tu réagis ou tu te mets chiffon quand tu joues ton avenir. Qui joue son avenir finalement dans ce club-là ? puisque entre les mecs qui sont là de passage, ceux qui sont prêtés avec même pas d'option d'achat, ceux qui sont en fin de course, il y en a qui sont en fin de carrière, et ceux qui ont une valeur marchande et qui savent que si jamais il n'y a pas de Ligue de Champions, ils vont être vendus pour le biais économique. Donc tu peux au lieu de jouer ta vie sur ce match-là et sur les matchs qui vont suivre, ben tu as peut-être des mecs qui ont déjà déposé les armes, tu vois.
Est-ce que ces joueurs-là,
c'est fou.
Ouais, pardon, vas-y Vincent.
C'est fou parce que l'an dernier, ça se passait bien avec un groupe qui s'était bien passé et ceux qui ont mis le bordel. Mmh. Ceux qui ont mis le bordel en cassant ce groupe, en recrutant à travers alors qu'ils avaient dit que ça allait bien se passer. J'ai l'impression qu'il n'était bien que ce groupe-là de dirigeants avec ce président, ils étaient bien que dans le conflit, que dans la mélasse.
Non, dans l'hystérie.
Dans l'hystérie complètement. Mais c'est dommage, à un moment donné, tu peux pas fonctionner. Même si t'es à Marseille, tu peux pas fonctionner comme ça. À un moment donné, il faut toi paisible, de la tranquillité. Que les mecs qui se lèvent le matin, qu'il n'y ait pas des histoires tout le temps, des médisances, des machins, lui, c'est pas possible.
C'est tu pas peux tant pas des médisances, c'est une pression qui est démesurée en vrai. C'est-à-dire que.
Ouais, mais d'accord, mais quoi,
quand, oui, mais quand t'as un président qui pète un câble parce qu'il perd à Auxerre, bon, c'est dans des circonstances peut-être qu'il considère injuste, soit, mais en fin de compte, ça ne peut que rejaillir sur le sportif.
Oui, exactement.
C'est-à-dire que, ça reste du sport, ça reste une compète, un classement. C'est sûr que si t'es pas dans les objectifs, ça craint, mais j'ai l'impression qu'il n'y avait plus rien de maîtrisé, Eric, finalement. Longoria ne pouvait plus, moi j'ai l'impression, de l'extérieur, ne pouvait plus continuer dans cet état d'hystérie permanent là.
Non mais il y a le oui, alors le coach, attention, on a joué aussi, ça a été la marque de fabrique du coach aussi, hein, qui a mis beaucoup de passion dans son coaching, voire dans sa manière de communiquer, voire dans son attitude au bord du terrain, hein, rappelons-nous, hein, c'était tout sauf un dormeur, hein, De Zerbi sur le bord du terrain, donc ça a des qualités, ça peut avoir aussi quelques défauts quand ça va un petit peu moins bien, mais sans parler que de ça, là où Vincent a raison, c'est que tu sais, alors ça arrive que des dirigeants ou des clubs qui travaillent mal ont des résultats. Bon, c'est passager souvent, et on peut parler même des sports individuels, puisque Alizé est là. On peut parler de sports individuels, de tennis, d'autres choses, du rugby, puisque Vincent. Tu sais, généralement quand tu travailles mal, c'est dur de gagner. Tu peux le faire, mais on va dire que ça peut arriver. Sauf que sur le long terme, malheureusement, tu le payes à un moment donné. Et là, Vincent l'a dit, quand tu es deuxième l'an dernier, deuxième en plus, quand tu regardes le fil de la saison, c'est l'équipe qui a été le plus souvent deuxième et le résultat était normal. Et ils ont finalement pas trop souffert, à part de se mettre le feu, d'être obligé de partir à l'étranger sur les derniers matchs parce que tu te mets le feu tout seul. Bon, mais en tout cas, tu as fait le job. Et tu as une ossature, du coup, relativement solide. Pourquoi tu fais pas deux joueurs par ligne et tu te renforces juste sur tes défauts et tu gardes tes points forts? Pourquoi tu fais 10 changements l'été et 10 l'hiver? À un moment donné, tu es obligé de le payer. Et ce serait l'inverse qui serait pas normal. C'est-à-dire qu'en faisant ça, si ça marche, ça veut dire que tous les cons dans le monde du foot qui travaillent sur la stabilité, sur un coach qui est là du long terme, des tauliers qui sont là et tout, ça veut dire que
paradoxalement, voilà. Alizé, tu disais ils ont stabilisé, mais c'est peut-être le moment là, sur les derniers matchs qui arrivent, où ils auraient peut-être mérité d'être un peu mis sous tension. Je veux dire, là, c'est terrible. On sait que Benatia s'en va.
C'est-à-dire
que
le mec. Lille, ça dort,
Eric, j'allais citer le match de Lille. Tu l'as vu. Ce qui est terrible, c'est Marseille. Déjà, le stade n'est pas plein. Déjà, ça, c'est un signe, Eric, tu dis souvent.
Ça, franchement, c'est terrible.
Manque de chance. Pour la première fois depuis 10 ans, il pleut à Marseille. C'est terrible. Il ne se passe rien. Il n'y a aucune révolte. Tu fais bouger à la fin du match par un mec qui a 40 barreaux. Hein. On adore Olivier Giroud, mais qui. Sa tête, elle est symbolique. Il humilie les défenseurs de l'OM. Il est 10 fois plus gainé que le défenseur qui le charge. Et il se passe rien. Il y a pas, les joueurs s'engueulent pas, le stade siffle à peine.
Est-ce qu'il n'y aurait pas une démobilisation des joueurs, des supporters?
C'est tout.
Est-ce qu'il n'est pas là le vrai danger?
Quand t'as chopé le mistigri, parce que les joueurs, au bout d'un moment, des fois, quand les mecs s'engueulent, le dirigeant, tout ça, bon, quand t'es joueur, oui. Tout ce deux, des fois, ça te passe un peu dessus. Mais quand c'est tout le temps, et que tu remets en cause ton entraîneur, et que s'il y a que là, que tout le monde intervient, mais au bout d'un moment, ça te prend, tu chopes un peu aussi, tu te dis, mais quel club je suis là-haut?
Oui, mais là où Adrien a peut-être pas tort, mais bon, ça, c'est après la chanson que, quand on a vu les machins, voilà. Donc, oui,
non, mais
il y a
bancal, ça.
Yalizé. Non, mais Yalizé qui est là, je voulais pas faire des. Voilà.
Il faut la faire. Tu sais que chaque jour, des oreilles chastes nous écoutent. Il y a des enfants.
Oui, non, mais là, je suis encore un peu gêné.
Moi, je lève mon chapeau. C'est une énorme progression.
Mais oui, c'est bon ce que je fais, moi aussi. Moi aussi, je progresse dans ma vie de tout.
Parce que je sais que ça te démange. Je te le dis. Tu te mords les lèvres.
Lâche-toi, Eric, lâche-toi.
Non, non, mais tu sais quoi, moi, je préférais. Et c'est ça qui est terrible. Là où tu as raison, Adrien, c'est que sur ce match-là contre Lille, donc tu as tout le monde qui est résigné, même les supporters quand ils vont au stade, ils y vont par habitude, ils se demandent même si
le premier but, Eric, savent que ça va, c'est un but de cours d'école.
Arriver. Voilà. Donc mais moi, je préférais quand ils se bastonnaient après les matchs, j'allais baisser entre eux, qu'est-ce qui se passe en ce moment. Parce que exactement, parce que là tu te dis, là au moins ils réagissent, il y a des mecs qui vont voilà, et puis dans un groupe qui réagit, tu as les brebis galeuses entre nous, les mecs qui sont un peu moins dans le projet, qui sont écartés naturellement. Là, tout le monde dort et même les supporters sont résignés et ils ont attends, là j'en peux plus, je suis obligé de le dire, le dis 100 fois.
Vas-y.
Non mais ils ont fait encore un tour d'honneur.
C'est vrai.
Vous l'avez vu?
C'est vrai.
Non mais j'espère que vous l'avez vu quand même.
Personne ne peut leur dire ça.
Non mais. Alors moi, je l'ai dit deux ou trois fois.
On leur dit de le faire, Vincent.
Moi, je l'ai dit deux ou trois fois. Mais les mecs qui expliquent aux joueurs que quand tu perds dans la course au podium, qu'il faut aller faire un tour d'honneur. Mais arrêtez. Quand tu es joueur que tu as perdu contre Lille et que tu es en train de te faire peut-être doubler, tu rentres vite au vestiaire et tu te caches et tu rentres à la maison et le lendemain tu vas à l'entraînement. Un tour d'honneur, peu cher, mais
ça
fait
marcher un peu parce que qui court.
Pourquoi on leur fait ça? Ça me fait même de la peine pour eux. Parce qu'en plus, quand il faut un tour d'honneur, ils sont falsifiés, ils sont pas insultés.
Imagine quoi. Tu as raison. Eric, il faut un tour d'honneur là. Imagine s'ils gagnent, qu'est-ce qu'ils se font.
On continue sur l'OM. Dans un instant, on change complètement de sujet.
Oui.
L'OM a changé de logo. Ça faisait 12 ans que le logo actuel existait. Qu'est-ce que vous en pensez tout simplement? Vous appelez le 32-16 supporter marseillais. Il y a vraiment de tout.
Des gens
qui
adorent
et d'autres qui n'aiment pas du tout.
On va demander à ça, le grand designer.
C'est notre star qu'à nous.
Quand Pierrot il m'a appelé, il m'a dit, t'es toi à nous donner ton avis. J'ai dit, bon, c'est bizarre. Oui, c'est bon. Bizarre qu'il me demande sur un truc comme ça.